Et nous accueillons Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Israël sous le feu des critiques.
Après la frappe qui a tué hier 7 travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza, l'État hébreu a reconnu ce matin, je cite, une grave erreur. Sauf que les premiers éléments de l'enquête, on le verra, semblent indiquer un raid délibéré. Nous serons à Jérusalem dès le début du journal. L'actualité en France, c'est tout d'abord la présentation ce matin par le gouvernement de son projet de loi pour l'agriculture, censé calmer la colère paysanne au risque de s'attirer les foudres des défenseurs de l'environnement. Après 2 mois de turbulences, sinon d'incohérences, la CIVIS, commission indépendante sur l'inceste, a repris ses travaux ce matin sous l'égide d'un quatuor. Reste à savoir si cette nouvelle équipe sera à même de susciter un nouveau départ. Enfin, c'est un rituel de notre vie politique, la séance de questions au gouvernement. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, ce ne seront plus les ministres qui répondront aux députés, mais uniquement Gabriel Attal, le chef du gouvernement, a choisi de défendre seul sa politique face à l'hémicycle. Avec notre invité aujourd'hui, Dorothée Régnier, on se demandera pourquoi un tel ajustement et que vient surtout révéler cette nouvelle formule du fonctionnement de nos institutions démocratiques. Non seulement le drame hier a suscité une condamnation mondiale, mais il pourrait aussi avoir à long terme des conséquences potentiellement désastreuses si l'État hébreu devait à présent se retrouver sans plus aucun partenaire pour fournir et acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Toujours est-il qu'au lendemain de la frappe israélienne sur un convoi humanitaire qui a tué 7 employés, la communauté internationale ne cesse de demander des comptes aux autorités de Jérusalem qui, de leur côté, disent regretter profondément cet incident tragique qualifié de meurtre involontaire faisant suite à une erreur d'identification en pleine nuit. En clair, Israël se justifie aujourd'hui en invoquant des conditions très complexes, sauf que des sources militaires anonymes semblent indiquer que ce raid meurtrier résulterait davantage d'un manque de discipline ou pire, relèverait d'un acte intentionnel. Les précisions depuis Jérusalem de notre correspondant Thibault Lefebvre.
21h30, lundi soir, selon un secouriste du Croissant Rouge contacté par le Washington Post, c'est l'heure où les explosions retentissent. Quelques secondes avant, les 3 véhicules sont sur la route du retour. Ils longent la côte vers le sud après avoir escorté à l'aller un camion rempli d'aide humanitaire. Et l'armée israélienne a approuvé, selon World Central Kitchen, le déplacement du convoi. Des sources militaires citées par le quotidien israélien Haaretz racontent qu'un drone de type Hermès 450 a tiré 3 missiles consécutivement, près de 2 km. L'ennemi sépare la première et la troisième cible, ce qui laisse clairement penser que les frappes se sont déroulées en 3 temps, avec des victimes qui ont tenté de s'enfuir en passant de véhicule en véhicule avant d'être mortellement touchées. Se pose désormais la question de l'intentionnalité et de la responsabilité de cette frappe. Pour Erin Gore, la patronne de World Central Kitchen, c'est une attaque ciblée, ce que réfute le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'armée parle officiellement de problèmes de coordination avec l'ONG, alors que selon les mêmes sources militaires citées par Haaretz, il s'agirait de prise d'initiative individuelle et d'un manque de discipline.
Le verbe et l'allure assurée au moment de prêter serment, le tout nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, aura attendu quelques heures seulement avant de nommer hier soir au poste de Premier ministre la figure clé de son élection, son mentor, le très populaire chef de file anti-système Ousmane Sonko, dont la candidature naturelle à l'élection présidentielle avait été invalidée par les autorités. Alors cette nomination n'est pas une réelle surprise, elle acte surtout un double coup gagnant inespéré il y a encore quelques semaines pour l'opposition. Et elle préfigure aussi sans doute Omar Waman un exercice plein du pouvoir à 4 mains.
Après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, dès le premier tour, s'est vite posée la question du rôle d'Ousmane Sonko qui se voyait président mais dont la candidature a été invalidé avant de désigner son bras droit et ami. Mais le vrai concepteur du projet présidentiel, c'est lui, Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye n'en sera que l'exécutant. Mais pour les deux hommes, l'accession à la présidence n'est pas une affaire de personne, mais d'idées politiques. Et le programme qu'ils ont défendu prévoit notamment des réformes institutionnelles majeures pour mettre fin à l'hyper-présidentialisme qui est en vigueur au Sénégal depuis l'indépendance. La nomination d'Ousmane Sonko, chef du gouvernement, s'inscrit donc dans une suite logique. Il sera le chef d'orchestre d'un projet qu'il a écrit de bout en bout. Car si Bassirou Diomaye Faye a bien remporté l'élection présidentielle, c'est le programme d'Ousmane Sonko qui sera mis en œuvre. La jeunesse sénégalaise ne s'y trompe pas et l'appelle le président et voit en lui un mentor et le grand vainqueur du scrutin du 24 mars dernier.
Au moins 9 morts, plus de 800 blessés et 50 personnes toujours portées disparues.
C'est le dernier bilan d'un séisme à Taïwan ce matin. Le plus puissant a frappé l'île depuis un quart de siècle. Toutes les alertes au tsunami ont depuis été levées. après que la présidente du Pérou, engluée dans un scandale de faits présumés d'enrichissement illicite, a dû remplacer 6 de ses ministres après leur démission soudaine. Le tout nouveau chef du gouvernement se présentera aujourd'hui devant le Parlement pour y exposer sa politique générale et demander un vote de confiance, a priori acquis d'avance, dès lors que la Chambre, contrôlée par une majorité de droite et d'extrême droite, est favorable au pouvoir.
Après la colère paysanne en France, un projet de loi pour préparer, pardonnez-moi, l'avenir.
En préparation depuis plus d'un an et repoussé à plusieurs reprises, le gouvernement présentait ce matin au Conseil des ministres son projet de loi pour l'agriculture, étoffé depuis les manifestations d'une moisson inédite de concessions pour satisfaire, en l'occurrence, une partie des revendications du syndicat majoritaire FNSEA. C'est ainsi, par exemple, que l'un des principaux points du texte porte sur la reconnaissance de l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation, au même titre notamment que la défense de l'environnement, ce qui permettra de donner à l'avenir davantage de poids au secteur agricole dans les décisions politiques. Le projet de loi contient d'ailleurs plusieurs mesures pour alléger les sanctions encourues en cas d'atteinte à la nature. Alors faut-il en déduire pour autant que ce projet mettrait directement en concurrence deux modèles, l'agriculture d'un côté et l'environnement de l'autre ? Élément de réponse avec Catherine Pétillon.
En tout cas, le texte dessine une politique agricole dont l'objectif est de produire plus et de contraindre moins. De ce point de vue, c'est clairement une victoire des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Ils ont obtenu de nouvelles mesures en faveur du modèle agricole qu'ils défendent. En faisant de l'agriculture un intérêt général majeur, l'exécutif espère renforcer la prise en compte des enjeux agricoles au même titre que l'environnement. Beaucoup de voix s'élèvent déjà pour craindre que cela ne soit au détriment de l'environnement. Cela viendra en appui de l'interprétation du juge administratif chargé de se prononcer sur tel ou tel projet agricole, explique le ministère de l'Agriculture. Et les projets en question, ce sont avant tout les stockages d'eau et les bâtiments d'élevage, lesquels font souvent l'objet de recours pour des raisons environnementales. Parmi les ajouts hautement symboliques, on peut d'ailleurs aussi noter l'accélération des procédures de contentieux autour de ces projets. La simplification promise est là, et c'est d'abord celle des normes environnementales. Érigée en symbole de complexité par le gouvernement, la réglementation sur les haies est allégée, un article y est consacré. Dans le même esprit, le texte prévoit d'adapter l'échelle des peines et de remplacer des sanctions pénales par des sanctions administratives dans certains cas d'atteinte à l'environnement ou à la biodiversité. L'objet initial de ce texte était justement d'adapter l'agriculture au dérèglement climatique et de préserver la biodiversité. Et on retrouve bien cet objectif dans l'exposé des motifs de la loi, mais pas vraiment dans le texte en lui-même. Rien non plus sur l'usage des pesticides, même si cela fait largement débat, le Parlement n'en discutera donc pas. Néanmoins, l'équilibre entre environnement et agriculture devrait être au centre des débats parlementaires. Le texte arrivera mi-mai à l'Assemblée nationale.
Quand l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie s'écrit à Paris, hier, les sénateurs ont approuvé la révision constitutionnelle sur l'élargissement du corps électoral. L'objectif est de permettre à tous les natifs de l'archipel, mais aussi aux résidents établis depuis au moins 10 ans, de pouvoir voter aux élections provinciales, de quoi possiblement bouleverser donc les équilibres politiques locaux, raison pour laquelle cette réforme exacerbe les tensions entre les loyalistes d'un côté, favorables au texte, et les indépendantistes de l'autre, qui craignent au contraire qu'ils ne vise qu'à minoriser davantage le peuple autochtone kanak. Quoi qu'il en soit, cette révision doit désormais être adoptée dans les mêmes termes par les députés avant d'être approuvée par les 3/5 des parlementaires réunis en congrès.
Il y aura finalement un quatuor à la tête de la Civise.
Ce matin, la ministre déléguée chargée de l'enfance a annoncé l'installation à la tête de la commission indépendante sur l'inceste d'une gouvernance renouvelée, composée d'une ex-magistrate, d'un médecin, d'une présidente d'association et d'un élu. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour.
Après moult rebondissements, évictions, démissions et autres mises en retrait, la Civise se retrouve donc ce matin avec à sa tête un collège directeur. Et toute la question est à présent de savoir, Mathieu, si la composition de cette nouvelle équipe sera de nature à mettre fin à des mois de turbulences.
Le 11 décembre, peu après avoir remis au gouvernement conclusions et recommandations issues de 3 ans de travail, le juge Durand, co-président de la Civise 1, est écarté. Une éviction lourde de conséquences qui aura blessé bien des structures associatives. Le rapport compte 30 000 témoignages, 30 000 affirmations de légitimité, 30 000 restaurations du langage face à la violence et au déni, argumentait alors le juge Durand, dont les priorités en matière de prise en charge judiciaire des victimes étaient unanimement saluées. Une démission aura abîmé l'image de la commission, deuxième mouture, celle de la coprésidente de l'équipe installée le 5 février, Caroline Ressalmon, pédiatre et médecin légiste, sous le coup d'une plainte pour agression sexuelle. Cette Civise 2 2 n'aura pas eu le temps d'avancer. En revanche, ses responsables auront pris soin de prendre leur distance avec l'accueil inconditionnel de la parole de l'enfant, de refuser d'envisager de retirer l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable, de qualifier la Ciivise 1 de trop féministe alors que 97% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes et la grande majorité des victimes sont de genre féminin. Ces 2 mois compliqués n'ont pas permis d'avoir un environnement suffisamment serein pour travailler, admet la ministre déléguée Sarah El Haïry, qui s'engage à améliorer la formation des professionnels à l'accueil de la parole des victimes, à œuvrer à la consolidation d'un parcours de santé, parcours de reconstruction. Mais quel lien de confiance maintenir avec les victimes après tant de turbulences? Enfin, quelle pertinence prêter à la sloganisation de la lutte contre un fléau quand l'instabilité gouverne? On se compte bien, on vous croit, on vous protège, on vous accompagne, certes, mais par intermittence.
Merci Mathieu Laurent. Le nombre de violences sexuelles et conjugales dénoncées n'a jamais été aussi important en France, essentiellement au préjudice des femmes. Sauf que dans l'écrasante majorité des signalements, les poursuites pénales sont abandonnées faute de preuves. C'est ce qui ressort d'une étude de l'Institut des politiques publiques publiée ce matin.
Gabriel Attal, seul en scène.
Oui, on connaissait déjà son goût prononcé du « moi-je ». Eh bien, le Premier ministre a décidé de se lancer cet après-midi dans un nouvel exercice de communication politique. Chaque mercredi, à partir de 14h, il répondra désormais seul aux questions des députés, un face-à-face inédit de 45 minutes censé redynamiser l'exercice, sans doute un peu usé des questions au gouvernement, mais plus encore asseoir son autorité de chef du gouvernement. Sauf que cette mise en lumière divise, que ce soit à gauche ou même chez les alliés du camp présidentiel Horizon et Modem. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Dorothée Régnier, maîtresse de conférence à Sciences Po Lille. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Peut-être, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste donc cette mission du Parlement de contrôler en somme le gouvernement, mission inscrite d'ailleurs dans la Constitution au même titre que le vote de la loi?
Oui, c'est l'article 24 de la Constitution qui prévoit cette mission. Le Parlement vote la loi, contrôle le gouvernement et évalue les politiques publiques. La mission des questions, elle est double. C'est d'abord d'aller chercher des informations, d'obtenir des nouveautés, des informations sur la loi qui est en discussion ou qui va être envisagée. Et ça permet comme ça de rencontrer des questions au gouvernement dans des régimes qui sont pas des régimes parlementaires, comme par exemple en Suisse ou en Europe. Mais vous avez raison, c'est effectivement aujourd'hui dans un régime parlementaire essentiellement un élément qui vise un élément de contrôle, en sachant que ce n'est pas le seul, évidemment, mais qu'ici, le mot important dans question au gouvernement, c'est que ce sont des questions d'actualité. Et donc, ça suppose une action spontanée. C'est quelque chose qui, certes, est réfléchi en amont, mais qui vient résonner avec l'actualité de la semaine. Et donc, ça suppose une maîtrise de la part des parlementaires et aussi de la part du gouvernement qui apporte la réponse à un problème qui a été soulevé dans l'actualité.
S'agissant non plus du fond, mais cette fois-ci de la forme de ces QAG, question au gouvernement, quelle en serait l'origine? Est-ce que, par exemple, la représentation télévisuelle des débats à l'Assemblée a pu jouer un rôle?
Donc, les questions au gouvernement, elles trouvent en France leur origine dans leur forme actuelle en 1974. C'est une volonté du président Valéry Giscard d'Estaing de laisser les ministres aller répondre aux questions de l'Assemblée si elles souhaitent le questionner. Et c'est vrai que ça a pris une importance dans la semaine parlementaire, la semaine gouvernementale, depuis la retransmission télévisée au début des années 80, parce que c'était un moment où il n'y avait pas tous les moyens de communication actuels que l'on connaît, et ça permettait à tout un chacun de reconnaître son député. Et à chaque député de pouvoir, dans sa circonscription, revendiquer son travail. J'étais à l'Assemblée, voyez, j'ai posé ma question, j'ai réussi à vous défendre. Et c'est le moment en fait de la semaine où les députés, hommes ou femmes, d'ailleurs, arboraient leur veste chamarrée pour pouvoir attirer l'attention des spectateurs quand les caméras balayaient la salle, l'hémicycle. Et puis, évidemment, se placer autour de l'orateur, autour des micros.
Et est-ce qu'aujourd'hui encore, cette séance, donc, qui constitue le cœur battant du débat démocratique en France, du moins jusqu'à présent, suscite toujours autant d'intérêt auprès non seulement du public que des députés, d'ailleurs?
Alors, je suis pas sûre que ça participe au débat public exactement, puisque assez souvent, les questions mettent en avant une action politique, celle de la majorité ou celle de l'opposition, et la réponse peut tomber à côté ou peut mettre en avant la volonté du ministre ou du gouvernement, sans que ça crée véritablement un débat. Mais effectivement, il y a un souci de dynamisme et de succès de ces questions au gouvernement depuis plusieurs années. Déjà en 2019, le président Ferrand a essayé de redynamiser un petit peu l'exercice et d'organiser une seule séance de questions au gouvernement. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que c'était un tunnel de 2 heures qui était finalement difficile de suivre dans la longueur et que les députés qui arrivaient à la fin de ces 2 heures étaient fatigués par les 2 heures de débat qui avaient pu avoir lieu, idem pour les ministres. Et la présidente Yael Braun-Pivet a essayé de redynamiser l'exercice, d'abord en repassant à 2 séances par semaine, le mardi et le mercredi, et ensuite, aujourd'hui, avec l'expérimentation que vous évoquiez, les questions au Premier ministre.
Est-ce que justement la possibilité pour les députés désormais d'être assurés, donc que ce sera bien le Premier ministre qui leur répondra, pourrait changer la teneur des questions posées ?
Oui. Puisque dans la pratique actuelle, le Premier ministre répond aux questions des présidents de groupe. Là, ici, on envisage des députés qui ne seront donc pas des présidents de groupe et qui pourront questionner le Premier ministre. On peut envisager que la question qui sera posée sera une question au Premier ministre qui dirige le gouvernement, et donc une question qui serait peut-être moins pointilleuse et éventuellement moins sur la circonscription et qui vise davantage à prendre le champ sur l'action politique du gouvernement à long terme. Donc on pourrait envisager ça, mais en fait on ne sait pas du tout comment est-ce que ça va se passer. Ça va dépendre du choix des orateurs. Est-ce que les groupes vont choisir quelqu'un qui est à l'aise, qui va pouvoir se détacher, éventuellement utiliser son droit de réplique pour mettre le Premier ministre sur le grill ? Est-ce qu'ils vont choisir des questions qui vont avoir ce champ politique ? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'ils vont essayer d'avoir une réponse du Premier ministre sur une question très pratique des électeurs dans la circonscription, les inondations, un fait divers qui pourrait effectivement attirer l'attention de l'électeur qui pourrait ensuite être mobilisable sur les réseaux sociaux.
Et on aura donc une première réponse à partir de cet après-midi, 14h. Merci Dorothée Régnier, maîtresse de conférence à Sciences Po Lille, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
On en vient à cette nouvelle polémique, une de plus sur le plateau de Touche pas à mon poste.
Oui, hier soir, le président macroniste de la commission d'enquête sur les fréquences TNT, Quentin Bataillon, avait choisi d'aller faire le bilan de ses travaux sur le plateau de Cyril Hanouna, l'animateur vedette de C8, lui-même auditionné par la dite commission, de quoi s'attirer forcément les foudres d'une partie des oppositions et de fait, Rosalie Lafarge, plusieurs moments interrogent.
À commencer par le début, les premiers instants de Quentin Bataillon dans l'émission.
Merci d'être avec nous.
Alors, l'animateur ne se contente pas d'un remerciement oral.
J'ai déjà un petit cadeau pour vous.
Voilà. Ah, j'en ferai bon usage.
Un t-shirt, il est écrit « C'est l'heure du goûter », sorte de clin d'œil à l'une des réponses faites par Cyril Hanouna devant la commission d'enquête à l'Assemblée. Quelques minutes après, Quentin Bataillon est interrogé sur un animateur concurrent, Yann Barthès, lui aussi entendu par la commission.
Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets, vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme, énervé sur les auditionnés parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose.
Il critique Yann Barthès, félicite Cyril Hanouna un peu plus tard, attitude qui lui aurait valu un sérieux rappel à l'ordre par le président du groupe Renaissance à l'Assemblée et qui provoque une série de réactions parmi les oppositions.
Un président d'une commission d'enquête ne devrait pas faire ça.
Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste.
Ça décrédibilise complètement à la fois la fonction de président de cette commission et ça entache le travail de cette commission. Pour moi, Renaissance devrait même le relever de ses fonctions de président de cette commission d'enquête.
Démission ou sanction, clame une partie de la gauche qui dénonce une faute. Même chez Renaissance, on réclame à Quentin Bataillon au moins des excuses. La présidente de l'Assemblée, elle, rappelle ce matin que tant que les conclusions d'une commission d'enquête ne sont pas rendues publiques, et c'est le cas pour celle-ci, son président, comme ses autres membres, doivent faire preuve de réserve et de discernement.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi où de rares éclaircies composeront avec de fréquentes averses sur les trois quarts nord du pays. Le risque de crue concerne aujourd'hui quatre départements, Lyon, l'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or. En revanche, le soleil sera de la partie de la côte landaise aux plages languedociennes et du sud de PACA à la Corse. Quant aux températures, elles afficheront entre 14 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.